Ben ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est un test d'attention, savoir si vous écoutiez bien. C'est la première fois dans ma carrière que je fais une telle erreur. Ceux qui me connaissent le savent. Pourquoi vous riez? Eh oui! Ah, puis j'en fais de... Tu sais, mettons, je mélange brocoli puis céleri. Madame, pyjama puis... C'est quoi donc, pyjama puis quoi donc que je mêle tout le temps? Hein? Non, costume de bain! Ça n'a pas rapport! Madame, ma femme, t'as-tu lavé mon costume de bain? Puis je veux dire mon pyjama. M'en ai pas d'explication. Hey, c'était enregistré, ça va être sur Internet. Au dernier mobile, on avait un entrepôt, puis là, je m'occupais de l'entrepôt, puis je demandais à quelqu'un, peut-être aller chercher trois caisses de céleri, puis je voulais dire brocoli, arrivait avec du céleri. Ben, je fais là, on a besoin de brocoli. Ah, oh, pauvres autres. J'ai traumatisé beaucoup de gens.
On sait que tu
baignes
ton pyjama.
Ouais, c'est ça. Eh oui! Amen! Donc, on a lu le chapitre au complet, on va lire un verset dans le chapitre 3, puis on va aller faire une incursion dans les chapitres 2 et 4. Donc, c'est un peu comme si on couvre l'ensemble du chapitre 2 à 4 de l'Exode. J'aimerais juste lire le verset 8, c'est le titre du message, je vais vous expliquer où est-ce qu'on s'en va avec ça pour le message de ce matin. Exode chapitre 3 verset 8 nous dit « Je suis, ici c'est l'Éternel qui parle, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent tous ces amis-là qui sont là. » C'est surtout que je veux vous faire remarquer « Je suis descendu afin de faire monter. » Le titre du message c'est « Je suis descendu » pour faire remonter. J'aimerais qu'on prie. Seigneur, merci qu'on peut prendre un temps avec ta parole qui est vivante, qui est la vérité. Seigneur, tu es celui aussi qui prend ces paroles, prend la vérité de ta parole pour accomplir ton œuvre, tes desseins. Puisses-tu accomplir dans les vies, les familles, dans cette église, tes desseins salvateurs, tes desseins pour nous délivrer de plus en plus de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Et aussi que ta parole vivante atteigne le cœur de ceux qui sont encore sans vie, sans Christ, sans Dieu dans ce monde. Peut-être qu'ils ont des gens autour d'eux qui connaissent le Seigneur, fort probablement. Mais Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui te rencontrer personnellement en ton Fils Jésus-Christ pour le salut de leur âme. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc cette expression « Je suis descendu afin de faire remonter », ça résume d'une façon imagée l'essence de c'est quoi l'incarnation, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez, on est toujours le thème, même si Pâques est passé, le thème du mois c'est Christ notre Père, c'est le dernier message qu'on fait avec ce thème-là, parce que c'est notre dernier dimanche d'avril. Et on va aller dans des passages de la parole de Dieu, dans l'Exode ici, qui soulignent comment Dieu descend comme ça pour faire remonter. Et ce qu'on va voir à travers les deux exemples qu'on va considérer ensemble ce matin, c'est que Dieu fait ça à travers l'instrumentalité humaine. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il se sert de nous pour accomplir ses plans. Et si vous voulez, ça c'est le reflet ou le fruit de l'incarnation de Christ. Christ est venu comme ça, il est... On l'a même chanté, hein? Il a quitté le ciel et il est venu, il est descendu pour lui et remonté, mais aussi tous ceux qui croient en lui, on va un jour aussi aller avec lui au ciel. Donc, il y a ce principe-là de descendre et remonter dans la rédemption. Et savez-vous qu'on fait la même chose étant son corps? Nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le prolongement de cette œuvre qu'il a commencée. Il a commencé ici dans... les ombres, les images qu'on voit dans l'Ancien Testament, il l'a fait avec la croix du calvaire. On sait qu'il est descendu au plus bas, hein? Jésus qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la forme de serviteur. Et il est mort non seulement d'une mort comme une mort qui aurait pu être commune, mais de la pire qu'il y avait, de la mort même, de la croix. Ça a été même prié ce matin. Et ayant accompli cette œuvre, Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, voyez-vous, on a cette idée descendre, remonter. Et ça, c'est toute l'image de la rédemption, mais même, il y a une loi spirituelle qu'on peut tirer avec cette vérité. Ça nous dit dans Jacques, au chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Donc, on a vraiment ici une loi spirituelle qu'on voit dans la rédemption, qu'on voit aussi dans nos vies, avec cette idée que lorsqu'on s'abaisse, le Seigneur nous élève. Lorsqu'on s'humilie, il nous élève. Et tout ça, c'est comme ça que l'œuvre de libération, de rédemption du Seigneur s'accomplit. Et de la même manière aussi, lorsque nous nous abaissons, nous acceptons d'être abaissés, parce que des fois, peut-être qu'on a un peu besoin d'aide du Seigneur, ça se peut-tu? Ben, j'ai pas pour vous, là, mais... Eh oui, des fois, on a besoin d'être abaissés, mais Dieu nous élève au temps convenable. Écoutez, 1 Pierre, chapitre 4, verset 6, à ce sujet, qui nous dit quoi? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur continue, selon cette loi spirituelle, son œuvre de rédemption à travers l'instrumentalité de son corps qu'est l'Église. Et combien cette vérité souligne l'importance vitale d'une Église locale comme la nôtre dans le plan rédempteur de Dieu. Parce qu'une Église comme ici, c'est le moyen par lequel Dieu exerce sa délivrance dans les vies individuelles, familiales et collectives. Et ça, à travers même les diverses et multiples, je dirais, imperfections de ce corps, Dieu quand même arrive à achever ce qu'on voit dans Éphésiens 4:16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, et ici ça parle de l'Église, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, on s'édifie comme ça avec les divers, les uns les autres, on s'accueille les uns les autres, on s'aime les uns les autres, on prie les uns pour les autres. Tout ça, ça fait qu'on s'édifie comme ça en tant que corps local, comme on est ici à l'Église. Mais résister à cette loi, lorsqu'on refuse soit de nous-mêmes nous humilier ou d'être humilié, d'être abaissé, ben, on résiste à ce que Dieu fait. Soit en insistant sur notre façon, ou on résiste à celle de Dieu, mais d'une manière ou de l'autre, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité, parce qu'on résiste à Dieu et on l'empêche d'accomplir ses plans bienfaisants. Quand Dieu nous abaisse ou qu'on s'abaisse devant Dieu, c'est toujours pour notre bien. C'est pas parce que ça va nous détruire, au contraire, c'est parce que Dieu s'apprête à relever, à rebâtir, à refaire quelque chose qui a été brisé par la chute dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre Église. Mais savez-vous quoi, des fois, à cause qu'on a eu mal, ou qu'on ne veut pas avoir mal, on ne veut pas avoir encore mal, est-ce que ça se peut qu'on se fasse du mal les uns les autres, des fois, dans nos relations interpersonnelles? Ouais. Vous avez des blessures, probablement, de gens de votre famille, de gens de cette Église. Mais si on refuse d'accepter ça, on empêche l'œuvre de restauration que Dieu... Mais lorsqu'on reste là, et qu'on demeure sous la main de Dieu, il va nous élever autant qu'on veut. Pas qu'on va se glorifier et qu'on va se péter les bretelles, mais il va relever, il va rebâtir, il va restaurer. C'est comme ça que Dieu se glorifie dans la vie de chacun de ses enfants et d'une église comme la nôtre. Ça m'amène à simplement considérer avec vous ce matin deux façons par lesquelles Dieu descend afin de faire remonter. D'abord, on va aller voir dans le chapitre 2. On voit que la première façon par laquelle Dieu descend afin de faire remonter, c'est par l'instrumentalité des plans humains. Ben bon, on va voir un beau petit plan ici, au chapitre 2, verset 4. On commence au verset 4, on va lire jusqu'au verset 10. Le plan des parents de Moïse, la sœur de l'enfant... on va commencer au verset 1, ça n'a pas rapport de commencer au verset 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc et qu'elle enduisit de bitume et de poix, et elle mit l'enfant et elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant de la fille, la sœur de Moïse, de Pharaon, vint, excusez, j'ai manqué une phrase. C'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Ah! La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. L'instrumentalité des plans humains. On a ici quelques explications pour être sûr que tout le monde comprend ce qui se passe dans ce qu'on vient de lire. On voit dans les versets 4, 3 et 4 que, bon, c'est-tu la mère, c'est-tu la mère et le père, mais bon, il y avait un plan qui a été fait, et il a été fait par la foi, parce que ça nous dit dans Hébreux, au chapitre 11, ça dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Donc, c'est la foi de ses parents. Bien, Moïse avait été encore trop petit pour avoir la foi, parce qu'il il vit que l'enfant était beau. Et qu'ils craignaient, ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Donc ici, on voit qu'ils ont élaboré un plan pour sauver la vie de leur fils, qui était beau. Et qui était beau ici, c'est quoi ça veut dire? Ben, on apprend, d'après le commentaire inspiré qu'on voit dans le discours d'Étienne dans Actes 7, ça dit à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Fait que c'était pas juste, oh, il était donc un beau petit poupon. Non, non, il y avait quelque chose de la faveur divine. Dieu le trouvait beau dans le sens qu'il trouvait qu'il était beau pour ses plans rédempteurs. Il y a plus que juste une simple beauté physique. OK? Et donc, les parents ont reconnu ça. Dieu leur ayant fait connaître d'une manière ou d'une autre. Et même, bon, si on n'a pas tous les détails dans la Bible sur la spécificité, comment que les parents ont vu que cet enfant-là était beau, de la faveur, de la beauté divine, nous savons que par la foi, ils ont conçu ce plan pour le sauver. Je ne crois pas que se sont appuyés sur la logique humaine, mais ils se sont confiés en l'Éternel et ils se sont appuyés sur sa sagesse à lui et non pas la sienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on l'a vu. Ils ont fait ce panier, ils l'ont enduit pour qu'il puisse flotter. Ils ont aussi placé ce panier dans une zone de la rivière où la famille royale allait. Ils l'ont pas juste mis n'importe où, ils l'ont mis à cet endroit où est-ce qu'ils savaient que si c'était pas toute la famille, au moins la fille de Pharaon allait se baigner. Ils ont placé leur fille, la grande sœur de Moïse, en gardienne pour surveiller. Et oui, il y a un plan là dans ça. Puis finalement, on apprend selon Hébreux 11:23 qu'il l'avait caché pendant 3 mois en attendant le moment opportun. À un moment donné, ce n'était plus possible, mais venu le moment opportun pour exécuter ce plan préparé soigneusement, ils ont passé à l'action. Tout ça nous montre qu'on fait ces choses dans l'espérance que Dieu allait délivrer des eaux, d'où le nom Moïse d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, que Dieu allait délivrer, que Dieu allait faire quelque chose. Mais savez-vous, Dieu avait bien plus grand que juste délivrer. Un petit enfant, il voulait délivrer son peuple. Il y avait un plan beaucoup plus grand que juste un enfant comme ça dans un panier de jonc. Le cœur de l'homme médite ses voies, mais l'Éternel dirige ses pas. C'était bien au-delà de la manigance humaine, de l'ingéniosité humaine, de façon indépendante de Dieu qui aurait fait un plan, mais c'était plutôt ses parents comme ça qui se sont confiés en Dieu, en faisant un plan, mais sans comprendre tout le grand plan. Là. Il n'y avait pas toute l'idée du grand plan rédempteur de Dieu, mais il y avait assez pour dire, OK, Dieu, on ne comprend pas tout, mais on fait ce qu'on a besoin de faire pour que toi, t'accomplisses ton grand plan. Et je dirais que ces versets qu'on a lus, c'est un peu encore là comme un commentaire inspiré sur le fait que ces plans à Dieu s'exécutent par la foi de ceux qu'il choisit, qui désigne comme ça pour les accomplir. Ça s'accomplit dans la dépendance envers Dieu et dans la crainte de Dieu, ça nous dit, plus que des hommes, parce qu'ils n'ont pas craint l'ordre du roi, ils ont craint Dieu. Ils craignaient l'ordre, ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Et on apprend dans les versets 7 à 10 que Dieu, dans sa providence, a bien voulu utiliser ses plans pour qu'il arrive quelque chose d'assez spécial. Ces plans qui étaient là ont fait en sorte qu'ils ont laissé le bébé aller, puis Dieu leur a ordonné. Parce que c'est comme par hasard de même, hein? C'est pas d'hasard avec Dieu, mais je veux dire que les soins de Moïse sont venus à sa mère elle-même, qui était la nourrice. Ça donne donc bien, hein? La petite soeur qui était là, c'était manigancée, on pourrait dire, mais c'est ça, c'était le plan. Mais Dieu avait quelque chose. Mais c'est le coup, il y a un pattern ici. Ils l'ont donné, Dieu leur a donné pour un temps, puis après ça, il a fallu qu'il redonne. Savez-vous qu'il est arrivé la même affaire avec Anne? Anne, qui avait un désir d'avoir un enfant, qui a versé son âme devant l'Éternel, le prophète l'a vu, il a fait la promesse qu'elle allait avoir un enfant à la même époque. Elle a eu l'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a donné à l'Éternel. Puis, les deux sont des types de Christ, où est-ce qu'ils sont devenus des libérateurs du peuple de Dieu. Et donc, vraiment, on voit les grandes trames du récit rédempteur à travers cette histoire et aussi celle de Samuel. Et je dirais que le secret au niveau ici de l'instrumentalité des plans humains, le secret c'est de garder une bonne disposition de confiance, de foi, d'espérance envers Dieu. C'est pas comme si, oh Dieu, moi j'ai mes plans, peux-tu venir les bénir s'il vous plaît? C'est que là on voit Dieu qui agit, puis Dieu, j'embarque dans ce que toi tu fais à travers ça, puis le plan que je fais, c'est pas mon plan, je veux rentrer dans ton plan. C'est ça la disposition qui permet à Dieu. Puis ça, c'est quoi? Il faut qu'on s'abaisse. Il faut pas qu'on s'appuie sur notre sagesse, nos raisonnements, ce qui font tomber du bon sens pour nous autres, mais ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Ça m'amène à la deuxième façon par laquelle Dieu descend afin de faire remonter, non seulement à travers l'instrumentalité des plans humains, mais aussi à travers l'instrumentalité de la disposition humaine. Et là, on saute par-dessus le chapitre 3, on s'en va dans le chapitre 4. On va lire au sujet, c'est vraiment une histoire de famille tout ça. Il y avait la grande sœur de Moïse qui a été impliquée. Là, on voit son frère, Aaron. On va commencer au verset 13. Ça vient dans l'appel de Moïse. Moïse a voulu un peu débattre avec Dieu. N'essayez pas ceci à la maison, ce n'est pas une bonne idée. Vous n'allez pas gagner. Demandez à Job, demandez à Pierre. Ça ne marche pas à Jonas, ça ne marche pas. Donc Moïse dit, verset 13, chapitre 4, verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. » Regardez, ça dit, « Le voici lui-même qui vient au devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge et, avec laquelle tu feras les signes. » Donc Dieu s'occupait de tout, mais j'aimerais qu'on remarque ici que Dieu avait disposé son frère favorablement. Il arrivait avec la joie dans son cœur. « Hey, c'est quoi le plan, mon Moïse? Je suis prêt. » Il était content. C'était pas un fardeau. Il n'a pas voulu que Moïse se batte avec lui comme Dieu fallait qu'il se batte avec Moïse. Dieu avait disposé le cœur de son frère Aaron. Et remarquez aussi, verset 27, l'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert, au-devant de Moïse. » Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu et le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. On continue jusqu'au verset 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc, on voit ici l'effet de la bonne disposition humaine est bénéfique et contagieuse. Non seulement Dieu avait disposé le cœur d'Aaron, mais là, une fois qu'ils ont embarqué dans ce que Dieu les a appelés de faire, le peuple embarque, les anciens, puis le peuple, c'est contagieux. Donc, Dieu avait non seulement préparé ses serviteurs et leur cœur, mais aussi le reste du peuple pour être favorable, disposé, pour collaborer les uns envers les autres pour son œuvre. Et je crois que c'est ce que Dieu aussi fait encore ici, en 2022. N'est-ce pas que, comme ça dit dans Malachie, j'aime tellement ce passage-là, ça dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » C'est pas moyen que dans le monde où est-ce qu'on vit, il ne veut pas trop qu'on se parle, qu'on se rencontre. Parce que quand on se parle, il se passe de quoi? Et l'Éternel fut attentif, il écouta et un livre fut ouvert, de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Je crois que c'est ça que Dieu fait avec le faible reste qu'on peut voir dans le corps de Christ, qui se parle l'un à l'autre dans la crainte de l'Éternel, puis qui disent, on n'est pas vaincu, l'histoire n'est pas finie, le Seigneur n'a pas terminé, et on avance dans le plan de Dieu pour que lui, à travers l'instrumentalité de notre disposition, il puisse accomplir ses plans rédempteurs. Il sauve encore, il restaure encore, c'est pas fini. Donc, on doit garder cette disposition par rapport à ses plans. Et pour Aaron, il y avait la joie dans son cœur. Et mes amis, rappelez-vous comment maintenant on commençait à être pas mal babouneux puis chialeux. Ceux qui étaient là, à 5 heures, là, on se trouvait toutes les raisons, comment ça ne dormait pas de bon sens. Puis on s'était un temps de prière où est-ce qu'on prenait 45 minutes pour chialer puis 15 minutes à la fin pour se donner bonne conscience en disant 2-3 prières. On avait perdu la joie du cœur. Puis quand le Seigneur a restauré ça, c'est incroyable l'effet que ça a eu. Dieu a opéré une délivrance. Il nous a délivré de nous-mêmes, de notre propre... Tu sais, le focus était peu à bonne place. On va voir ça cet après-midi. On dépend de ce sur quoi on se concentre. Si je me concentre sur mes problèmes, puis les autres, comment sont donc problématiques, mais je vais dépendre de ça, puis je vais peut-être avoir en conscience. Si je me concentre sur Dieu, sur son œuvre, sur ce qu'il est, sur ce qu'il révèle être et sur sa parole, je vais dépendre de lui pour la suite des choses. Et je crois que le manque de disposition généralisée du peuple de Dieu en 2022 par rapport au plan de Dieu, parce que, savez-vous quoi? Dieu, avec l'Église, il a un plan. Dieu veut montrer par l'Église sa sagesse infiniment variée pour que même les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Mais vu qu'il y a un manque de disposition et que des fois, c'est un manque de disposition juste général. Les gens veulent... Certains ont abandonné l'Église. Certains vont juste à l'Église par acte de présence. Mais même des fois, certains peuvent être là. Et à cause de l'amertume, à cause de différents conflits qu'il peut y avoir, et qu'on donne pas la chance aux coureurs, qu'on n'a pas la bonne disposition, ben ça bloque l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que Dieu n'est pas en train de faire de quoi. C'est que nous, on l'empêche de nous utiliser pour accomplir ce que lui veut. Et ça, mes amis, c'est un manque d'amour et c'est la présence de l'orgueil et de l'incrédulité. C'est pour ça que ça arrive. Donc, la solution, c'est dans l'humilité et un amour vivant que la faveur de Dieu va descendre pour nous faire remonter. C'est ça la recette. S'humilier devant le Seigneur, puis il va nous élever. C'est pas plus compliqué que ça. Et là-dessus, je vais vous donner un verset qui m'a frappé dernièrement dans mes lectures personnelles de la parole. Vous savez, dans Jérémie est un prophète qui annonçait un jugement sévère. Le peuple était très endurci et Dieu, dans son amour, avertissait. Et à travers le prophète Jérémie, il avertit toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, Dieu parle à son prophète. Et écoutez ce qu'il dit dans Jérémie 11, 14. Dieu dit à Jérémie, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. » N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. On dit, hey, Dieu est donc bien pas fin, comment ça qu'il dit ça? Ben, premièrement, j'aimerais vous dire que là, je vous ai lu chapitre 11, verset 14, mais c'est répété aussi dans le chapitre 7, verset 16, puis dans le chapitre 14, verset 11. À trois reprises, Dieu a dit ça à son prophète. Il dit, prie pas pour eux autres. Je ne vais pas répondre. Et je crois qu'on voit là le principe selon lequel Dieu rejette même la prière du juste en faveur de ceux qu'il rejette de façon systématique. C'est quand même assez épeurant. Romains 1, là, le jugement, l'endurcissement judiciaire de Dieu. Mais quand on comprend le contexte ici, dans le chapitre, encore là, quelque chose qui est répété à trois reprises, dans 37.3, 42.20 et 42.2 et 42.20, regardez ce que Dieu dit. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie. Il y a une gang. Le roi envoie vers le prophète des représentants pour dire intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Puis Dieu lui répond intercède pas. Regardez l'explication 42. Et dire à Jérémie le prophète. « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient. » Verset 20 du même chapitre. « Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu... ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. » Mais ils se trompaient eux-mêmes, il n'y avait aucune occasion, aucune intention de le faire. On voit que, justement, Dieu dénonce l'hypocrisie du fait qu'il allait se donner bonne conscience en consultant l'Éternel, mais il n'y avait pas l'intention de faire ce qu'il voulait. C'est pour ça que la situation était de même. Donc, Dieu voulait briser cette tromperie. Il dit, arrêtez de vous tromper, vous-même, arrêtez de jouer une game. Le peuple se faisait croire qu'il cherchait l'Éternel et sa faveur, mais en même temps, ils cherchaient la faveur des idoles. Il y avait une dévotion mitigée et non pas exclusive envers Dieu. Et ça, ça ne peut pas plaire à Dieu. Il faut que celui qui cherche Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche et qu'il cherche Dieu lui seul. Alors que ça nous dit dans Jacques, écoutez bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, on peut aller à Dieu, lui demander, on peut prier, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il sera donné. Mais qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, ma question à la lumière de tout ça ce matin, d'où, ou je pourrais dire, de qui recherches-tu la faveur, la bénédiction? De Dieu plus 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, plan A, B, C, ou Dieu seul. Car la disposition de chercher Dieu et lui seul est la seule que Dieu veut utiliser pour accomplir ses plans. Je veux dire, les plans de Dieu, il est capable de les accomplir, mais c'est pour ceux qui sont disposés envers lui exclusivement. Et si on est irrésolu, si on veut le beurre et l'argent du beurre, si on veut le chou, la chèvre et le chou, si on veut avoir les deux bords, ça ne marchera pas. On va être comme ceux que Élie a dénoncé de son époque, on va clocher des deux côtés, on va boiter des deux côtés. Et cette façon par laquelle Dieu descend afin de faire remonter par la disposition du cœur qui est disposé envers lui, dans la joie, dans la simplicité de cœur, dans la foi, ne peut être que par la confiance en Dieu et lui seul. Pas Dieu plus les idoles, Dieu plus mes raisonnements, Dieu plus ma façon. Mais Dieu et Dieu seul. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Puis si on veut notre façon, c'est par orgueil. Mais si on se soumet devant Dieu, on va dire, « Ok Dieu, c'est toi le seul sage. Je reconnais qu'en moi, il n'y a rien de bon, que c'est avec toi que ça va marcher, même si je ne comprends pas, même si ça ne me plaît pas, mais je veux y aller à ta façon. » Voilà notre plus grand besoin spirituel en ce moment. Parce que Dieu, lorsqu'il descend comme ça au milieu de nous et qu'il nous fait remonter, qu'est-ce que ce n'est si ce n'est un réveil biblique chez le peuple de Dieu? Un réveil, ce n'est pas les hommes qui s'élèvent à Dieu puis qui s'excitent tout. Non, c'est quand l'Esprit de Dieu amène la conviction, amène une œuvre extraordinaire de conviction de qui on est, de qui Dieu est, puis que là, Dieu, il fait remonter, c'est Dieu qui fait une œuvre extraordinaire chez son peuple, et quand ça arrive vraiment à étudier l'histoire, les gens qui sont pas sauvés en sont bénis parce que ça déborde. Un réveil, c'est chez le peuple de Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, mais ça, c'est un produit, c'est un sous-produit. Parce qu'on ne peut pas réveiller un mort. C'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, que Dieu réveille, et qu'ensuite les autres en sont bénis. Ça m'amène au dernier élément que je veux qu'on regarde ensemble ce matin. Ça dit simplement, verset 31, « Et le peuple crut. » Le peuple crut. À travers cette instrumentalité des plans humains pour amener Moïse, où est-ce qu'il a été, dans la position d'être le leader du peuple, et à travers la bonne disposition de son frère, ben, ça s'est répandu. Et le besoin fondamental pour le leadership spirituel, pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir, c'est que les gens embarquent là-dedans. C'est pas seul d'avoir l'autorité que le Seigneur nous a donnée comme ces deux hommes-là. Il aurait dirigé tout seul, puis il n'y aurait pas rien qui se serait passé. Il faut que le peuple aussi embarque. Il faut qu'eux autres aussi croient que Dieu est dans cette œuvre de rédemption. Et mes amis, il y a l'instrumentalité de ceux qui sont en position de leadership, mais aussi l'instrumentalité dans ceux qui sont en position d'embarquer, de suivre ce leadership. Et tout ça, c'est à travers ça que Dieu accomplit sa grande œuvre de rédemption. Et un verset que j'aime beaucoup, et que vous connaissez, ça c'est un beau verset à chocolat parce qu'il n'est pas très dur à apprendre. « Parce qu'en lui, l'Évangile est révélé, la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Par la foi et pour la foi. La foi engendre la foi. On est sauvé par la foi, on vit par la foi, et lorsqu'on vit par la foi, ça engendre encore la foi de ceux autour de nous autres. Mes amis, Dieu nous appelle pour sa rédemption à ce qu'on marche par la foi et qu'ainsi, cette foi-là se répande et que non seulement nous, dans le rôle d'influence, de leadership qu'on peut avoir, on marche par la foi, mais qu'on amène les autres aussi à eux aussi se confier en Dieu par la foi. C'est l'appel d'une génération face à celle qui suit. C'est l'appel des parents avec leurs enfants. C'est l'appel d'une église face au monde qui nous entoure. La foi, elle est contagieuse et elle doit être vécue pour pouvoir se répandre. C'était même humoristique, notre sœur priait cette semaine. Non, on parle de virus contagieux. C'était-tu la fois où tu parlais? Je ne me rappelle plus, mais la foi, c'est contagieux. L'amour de Dieu, la simplicité de cœur qui adore Dieu, c'est contagieux. C'est une bonne contagion. C'est quoi? Je pense qu'on a été infectés. Puis c'est super. Gloire à Dieu parce que ça porte du bon fruit. C'est pas quelque chose qui donne la mort comme un virus, c'est quelque chose qui donne la vie. Et ça, ça doit continuer d'être contagieux. Cette foi contagieuse qui permet au plan rédempteur de Dieu d'avancer. Ça veut dire que, savez-vous que la rédemption de Dieu là, a commencé en Genèse, là, puis elle va terminer quand que le Seigneur va dire que c'est terminé. Puis il n'y a pas besoin de nous autres. Mais cette joie de pouvoir participer à cette grande rédemption, de voir Christ formé en nous, dans ceux autour de nous, de voir des gens passer de la mort à la vie, il n'y a pas plus grande joie. Moi, pour moi, là, vous me donneriez les choses de ce monde, puis les bagnoles, les maisons, puis tout le kit, ça vaut absolument rien à comparer à voir Dieu agir comme ça. Dans ma vie, dans celle de ceux autour de moi, ça, c'est vraiment ce qui est précieux. Ça, c'est un poids éternel de gloire. Et ça vaut la peine de payer le plus grand prix d'aller jusqu'à en mourir pour que ça puisse s'accomplir. Amen. Amen? C'est ça la foi. Maintenant, question tellement importante. On a parlé d'être abaissé pour être relevé. Dieu est descendu pour faire remonter. Une loi spirituelle, selon le verset que j'ai cité au début, « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes ça ou est-ce que tu regimbes contre les aiguillons, contre les voies de Dieu? Est-ce que tu acceptes le chemin par lequel le Seigneur te fait passer? Parce que de ton acceptation va venir le fruit pour toi et ceux autour de toi. Il n'y a pas d'autre façon. C'est ça, s'humilier. C'est Dieu qui décide, puis c'est lui qui fait ce qu'il veut avec ce qu'il a décidé de faire. On disait tantôt, demander à Job, à Jonas, à Moïse ici, leur seul rôle, c'était de s'humilier, d'accepter par la foi ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qui pouvait faire mal, ce qui dérangeait, ce qui n'allait pas du tout avec leur façon de penser, leur façon de faire, leur désir. Mais c'est comme ça que Dieu accomplit. Donc, est-ce que tu acceptes ce matin? Est-ce que tu acceptes que à travers ces choses qui peuvent nous faire mal, qui peuvent être dures à accepter, c'est comme ça que Dieu donne la vie, répand sa vie? Et que c'est ça qui est le plus merveilleux. Jésus est venu dans ce monde plein de mort pour donner la vie. Puis on est son corps dans ce monde plein de mort. Il veut nous utiliser pour répandre cette vie. Et ça m'amène à cette question. Est-ce que tu as la vie? Même pas si tu es vivant ce matin. Je vais vérifier là. Pas mal tout le monde a l'air vivant ce matin. Mais as-tu la vie de Jésus? La vie surnaturelle? Écoutez ce que ça dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Pour avoir la vraie vie, la vie éternelle, c'est par Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si vous êtes ici, vous êtes encore étranger au salut qui est en Jésus-Christ, vous êtes mort dans vos offenses et vos péchés, vous devez venir à celui qui est la vie, qui donne la vie. Celui en qui, lorsque on le reçoit, on a la vie abondante dans laquelle on peut vivre enfin la vraie vie ici sur terre. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, venez aujourd'hui à Jésus, qui donne la vie parce qu'il est la vie, il donne la vie à ceux qui viennent à lui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai déjà passé par la porte étroite par Jésus. Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par son sang, par la grâce au moyen de la foi. Oh, Dieu veut porter le fruit de sa vie dans votre vie. Écoutez ce que ça dit. Puis, encore là, c'est dans 1 Jean, et encore au chapitre 5 aussi. Non, excusez, c'est dans Jean 15, on va voir après-midi. Demeurez en moi, Jésus, dans le beau discours de Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'on puisse aller à Dieu pour que cette vie, elle puisse se répandre. Ce plan rédempteur, qu'on accepte ses voies, ses plans et qu'on soit disposé afin que lui fasse ce que lui veut à travers nos vies. Oui, Seigneur, on te remercie de ce que tu te révèles à nous dans ta parole, mais aussi tu révèles des gens de la même nature que nous que tu as utilisés dans tes plans rédempteurs, bienveillants, glorieux. Merci Seigneur qu'à travers l'instrumentalité des plans qu'ont fait les parents de Moïse, tu as placé cet homme pour être un instrument de rédemption entre tes mains. Et même à travers la disposition de son frère Aaron, qui dans la joie comme ça entrait dans ton œuvre, tu as permis que les choses continuent. Et Seigneur, ça s'est passé il y a des milliers d'années, mais tu es le même Dieu et nous sommes ton corps ici sur terre, qu'on ait cette disposition. Seigneur, de rentrer dans ton grand travail, dans ton œuvre bénie, par la foi. Oh Seigneur, qu'on soit disposé, qu'on soit pas partagé, irrésolu, mais Seigneur, qu'on ait un cœur ferme, une foi inébranlable pour s'attacher à toi et que tu puisses, Seigneur, accomplir tes plans bienveillants dans l'époque dans laquelle tu nous as placés, comme tu avais placé ces personnes qu'on a considérées ce matin. Merci Seigneur que tu es vivant et vrai, que tu réponds aux prières de ceux qui t'invoquent, de ceux qui s'humilient devant toi, tu les élèves au temps convenable. On vient à toi, Seigneur, que ton peuple ici rassemblé réponde à l'appel que tu lances. On te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.